BW. Vue d'Allemagne.
En mars 1920 a eu lieu une tentative de renversement en Allemagne. Alors si le putsch de Kapp est moins connu que celui mené par Hitler en 1923, tous les deux ont échoué, il est tout aussi révélateur de la fragilité des premières années de la République de Weimar. On en parle dans un instant avec l'historien Ulrich Pfeil. Dans la deuxième partie de ce magazine, retour au présent avec un reportage en Inde où la corruption et le népotisme favorisent l'émergence d'une nouvelle classe politique, celle des entrepreneurs. Une commune du sud du pays est ainsi gouvernée depuis 5 ans par une société privée, avec de bonnes chances d'être réélu au municipal en novembre. C'est Anne Le Touzé au micro pour vous présenter Vue d'Allemagne. Willkommen, bienvenue. Au petit matin du 13 mars 1920, 5000 membres de la brigade Erhardt, armés jusqu'aux dents, entrent dans la capitale allemande. Ils arborent sur leurs casques des croix gammées blanches, symboles nationalistes. Ces militaires sont concernés par l'article 160 du traité de Versailles, signé en juin 1919 par le gouvernement de la République de Weimar. Il prévoit la dissolution des corps francs, des unités militaires qui ont joué un rôle décisif pendant la Grande Guerre, mais aussi une réduction drastique des effectifs de la Reichswehr, l'armée allemande. L'entrée en vigueur du traité le 10 janvier 1920 est l'un des facteurs déclencheurs du putsch de Kapp, explique l'historien Ulrich Pfeil, professeur à l'Université de Lorraine.
Il faut voir qu'il y a un lien entre le traité de Versailles et ce putsch, parce que le traité de Versailles devait rentrer en vigueur à ce moment-là, et il y avait un paragraphe qui disait que l'armée allemande, la Reichswehr, sera réduite. Donc avant, il y avait 400 000 soldats, et après, 100 000. Et aussi, il fallait donc dissoudre certaines brigades. Et donc, ce putsch était pas uniquement un putsch contre la Jeune République, mais c'était aussi une sorte de manifestation contre le traité de Versailles et contre le gouvernement allemand qui a signé le traité.
Le putsch de mars 1920 est mené par Wolfgang Kapp, un ancien député nationaliste et fondateur du parti anti-républicain Union Nationale. Le général Erich Ludendorff, que l'on retrouvera 3 ans plus tard aux côtés d'Adolf Hitler lors du putsch de la Brasserie, et le général Walter von Lüttwitz, un de ceux qui ont maté la révolte des Spartakistes en janvier 1919. Ces troupes ont d'ailleurs activement participé aux assassinats de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Tous les trois sont de fervents partisans de la doctrine du coup de poignard dans le dos, qui attribue aux sociodémocrates et aux juifs bolcheviques la défaite militaire de l'Empire allemand en 1918.
Il y avait tout un groupe qui ont lutté contre cette jeune république née suite à une révolution, suite à une défaite, et qui avait des grands problèmes tout au début de se maintenir. Il y avait une sorte de guerre civile qui a suivi la défaite de l'Allemagne, et cette guerre civile qui dure jusqu'au mois de mars 1920.
Donc c'était pour protester contre la défaite. Est-ce que c'était aussi dans le but de rétablir l'Empire allemand?
Est-ce que ces gens-là voulaient vraiment rétablir l'Empire allemand, voulaient faire revenir l'empereur Guillaume II? Ça, c'est pas clair, et ça explique aussi l'échec du putsch, parce qu'ils n'avaient pas vraiment fixé les objectifs. Je pense que quelqu'un comme le général Ludendorff misait plutôt sur une dictature militaire, et je crois Wolfgang Kapp aussi. Donc je pense qu'ils avaient quand même bien compris que avec la défaite de l'Empire, c'était la fin de la monarchie allemande, et ils voulaient plutôt fonder un régime autoritaire en Allemagne.
L'armée gouvernementale ne fait pas barrage aux putschistes qui s'installent à la chancellerie. Wolfgang Kapp prend la direction des affaires, mais malgré la fuite du gouvernement social-démocrate à Stuttgart, il ne va pas réussir à garder le pouvoir bien longtemps. Une grève générale est déclenchée à l'appel des syndicats et des partis républicains. 12 millions de personnes arrêtent le travail le 14 mars. Le mouvement commencé à Berlin s'étend rapidement dans tout le pays.
La grève générale a mené à un arrêt de la production de l'industrie allemande. Donc, je crois que les putschistes, ils avaient compris à un moment donné qu'ils n'avaient pas de soutien d'une majorité. Et donc, les ouvriers, déjà, donc, ont fait grève. Donc, c'était un groupe très important en 1920. Il faut voir aussi que l'administration, dans les ministères, a aussi résisté. Donc, ça, c'était peut-être pas un groupe très, très important, mais quand même un milieu stratégique qui n'a pas adhéré au putsch. Donc, pendant ces 5 jours, on va dire, du putsch, entre le 13 mars et le 18 mars, finalement, le 17-18 mars, les responsables ont compris qu'il y avait quand même une résistance contre les putschistes et finalement, ils ont quitté l'Allemagne.
La grève générale prend officiellement fin le 22 mars, soit 4 jours après l'échec du putsch. Tandis que Wolfgang Kapp s'enfuit en Suède, Walter von Lüttwitz négocie avec des représentants des partis et obtient certaines concessions pour mettre fin au putsch sans bain de sang le 17 mars. Les putschistes ne seront jamais jugés pour leurs actes.
Les responsables du putsch de Kapp n'étaient pas jugés. Donc ils pouvaient continuer après, et on les retrouve après dans des mouvements antisémites, militaristes, antidémocratiques, et un certain nombre de soldats ou de membres de ces corps francs sont responsables d'assassinats de Walter Rathenau, qui était juif, c'est pas un hasard, parce que ces corps francs étaient antisémites. Il y avait d'autres assassinats d'hommes politiques importants en Allemagne.
Et donc ça pendant toute la durée de la République de Weimar?
Voilà, donc ça a continué et surtout, il faut voir, à partir de 28, 30, il y avait quand même régulièrement des élections, 2 élections en 32, et quand on regarde les campagnes autour des élections, il y avait régulièrement des affrontements entre nazis et surtout communistes, des morts régulièrement, donc on peut vraiment parler de milliers de morts entre 1920 et ou 19 et 1933, donc une culture politique dominée par une violence physique.
Une violence que l'on retrouve dans la foulée du putsch en mars 1920. La grève a relancé les velléités révolutionnaires au sein de la classe ouvrière. Parmi les principaux mouvements, il y a celui de la Ruhr, région de l'ouest de l'Allemagne, emblématique puisque son annexion par les troupes franco-belges en 1923 sera à l'origine du deuxième putsch nationaliste conduit par Hitler. Mais c'est une autre histoire. Dans la Ruhr donc, environ 50 000 militants de l'armée rouge de la Ruhr se soulèvent et occupent les sites industriels de la région. Le mouvement est maté début avril par les troupes gouvernementales, soutenues par les corps francs, parmi lesquels on retrouve la brigade Erhardt qui avait contribué au putsch de Kapp. Bilan, 1 millier de morts côté révolutionnaire, 200 du côté de l'armée. Vue d'Allemagne, deuxième partie. Voilà 6 ans que le gouvernement de la droite fondamentaliste hindoue est arrivé au pouvoir en Inde. À l'époque, le Premier ministre Narendra Modi avait promis de réformer la protection sociale dans ce pays très pauvre. Mais la corruption et le népotisme de la classe politique entravent les réformes. En désespoir de cause, Kizhakambalam, une commune de 23 000 habitants dans l'état du Kerala, dans le sud du pays, a fini par élire une entreprise privée aux élections municipales il y a 5 ans. Vous avez bien entendu. Reportage dans le premier village privatisé du pays avec notre correspondant en Inde, Emmanuel Derville.
Anish Beni est au chômage. Parfois, il travaille comme chauffeur de taxi, mais il a du mal à joindre les deux bouts. Il y a 1 an, il survivait avec sa famille dans une maison délabrée, comme les quelques 200 millions d'Indiens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Depuis, son quartier a été refait à neuf. Des ruelles pavées de pierres blanches quadrillent les 37 maisons de la colonie God's Villa. Fait rare dans un pays où l'urbanisme est chaotique, ici, les allées ont des noms et les maisons des numéros. Au 2056 North Drive, Anish est fier de présenter sa maison, construite gratuitement par la municipalité. Jamais il n'aurait imaginé habiter un logement moderne.
Ici, vous avez le hall d'entrée avec une première chambre. Là, vous avez la deuxième chambre. Et ici, c'est la salle de bain. Là, vous avez encore la cuisine.
Vous avez l'eau courante ?
Oui, regardez, le robinet fonctionne. Sabu Sahab est comme un dieu pour nous.
Sabu Sahab, de son vrai nom Sabu Jacob, est le PDG d'une entreprise d'habillement Kitex Garments, qui emploie 11 000 salariés à Kizhakambalam. La loi impose aux sociétés de consacrer 2% de leurs bénéfices nets à des actions caritatives. En 2013, Sabu Jacob a créé une œuvre de bienfaisance, 2020. 2 ans plus tard, cet organisme a remporté les élections municipales. Et pour Sabou Jacob, il est urgent de pallier aux carences des pouvoirs publics.
Je crois que Dieu m'a créé pour assumer certaines responsabilités. Si les politiciens et le système administratif faisaient leur travail correctement, nous n'aurions pas besoin de faire tout ça. Mon objectif, c'est de faire de Kizab Kambala un village modèle aux yeux du monde, comme Singapour. Et ce modèle, il faut l'étendre à d'autres régions.
L'absence de gouvernance de proximité et la corruption sont devenues telles que les électeurs votent de plus en plus pour des chefs mafieux. Ces Robins des Bois à l'indienne mettent leur argent au service de leur communauté. La criminalisation de la classe politique gangrène même le Parlement fédéral. 43% des députés de la Chambre basse sont sous le coup de poursuites criminelles contre 24% en 2004. 2020 a étendu son action à presque tous les pans de la société. Il dit avoir livré ou rénové gratuitement 650 maisons pour les plus pauvres. Les magasins d'alcool ont été fermés pour lutter contre l'alcoolisme. Les frais d'hospitalisation sont payés par 2020, qui met à disposition des ambulances gratuites et gère aussi les cantines scolaires. Un supermarché à prix subventionné a même été ouvert en 2017. Lait, pain, céréales, savon, shampoing, lessive, fruits et légumes, tous les produits de base sont disponibles en rayon. Avant de payer, le client doit présenter sa carte électronique qui fixe un quota selon les revenus des foyers, comme l'explique Alan, un cadre de 2020.
Chaque article est classé selon des catégories et pour chacune de ces catégories, les familles ont un quota d'achat. Une fois qu'elles ont épuisé ce quota, ils doivent payer le prix normal. Pour le lait, le paquet subventionné coûte 13 roupies contre 25 roupies dans le commerce.
Mais ce système implique des contreparties. Hors micro, un employé de la firme explique que les quotas sont revus à la hausse si les bénéficiaires aident 2020 dans sa gestion du village en donnant des informations sur les besoins des habitants, par exemple, ou en participant aux réunions publiques. Cette implication est mesurée par les conseils de quartier. Ce système de crédit social s'apparente à une forme de surveillance, mais cela n'inquiète personne. Dans le village, toutes les personnes interrogées affirment qu'elles voteront pour 2020 au municipal cet automne. Emmanuel Derville, Akiza Kambalam, pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à Emmanuel Derville pour son reportage dans le Kerala. Merci à Ulrich Pfeil pour les éclairages historiques sur le putsch de Kapp. Et merci à vous de votre fidélité. Et comme j'ai parlé brièvement de l'assassinat de Rosa Luxembourg au début de cette émission, je vous invite à écouter ou réécouter le numéro de Vue d'Allemagne du 16 janvier 2019 consacré à ce triste épisode. Il est disponible dans la médiathèque de la DW comme tous nos magazines. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !